vous mettre dans le trouble. Donc, ça va être une belle entrevue de 60 minutes, j'en suis persuadé, avec Florence Brouillard, que je vous fais entendre à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir de passer la soirée en compagnie de Florence Brouillard, de l'agence Brouillard. Salut Florence!
Ça va
bien, je me sens mal parce que d'habitude, je me suis dit, Florence, ça va probablement me donner une entrevue sur Zoom ce soir, ce qui fait en sorte que je vais m'habiller en été. Puis là, ben là, tu sais, je t'ai vu tantôt au bureau, je me disais, mais non, elle est là en présentiel.
Je suis là. J'aime mieux ça. Je trouve que c'est plus fun.
Ouais. T'es-tu une fille qui administre sur Zoom, toi, quand tu fais tes affaires?
J'aime beaucoup le terme administrer que tu viens d'employer. Ben, par la force des choses, oui. Puis parce que tout simplement, on est capable de rentrer beaucoup plus de rencontres sur Zoom, Teams, Google Meet, whatever, dans une journée quand on les fait en visioconférence que si on se déplace. C'est juste m'emmener ici, ça m'a pris 20 minutes le temps de partir, prendre un café, arriver, bon, machin. Fait que oui, question d'efficacité. Ceci étant dit, j'aime bien, moi, me déplacer. Je trouve que ça fait toute la différence.
Ouais. Ben, ça fait plus personnel aussi. Tu rencontres les gens, puis ça fait... Parce que je trouve que sur Zoom, puis je fais énormément d'entrevues sur Zoom, là, c'est un peu impersonnel. T'sais, on n'a pas le temps de s'asseoir avec la personne, lui jaser, puis connaître un peu plus l'être humain qui est en face de nous.
Absolument. Mais t'as pas le vibe de la personne. Puis, tu sais, une des choses que je me plais régulièrement à dire parce que je me suis fait poser la question régulièrement ces temps-ci, j'essaie de ne plus me définir par mon métier. C'est-à-dire quand quelqu'un, une nouvelle personne que je rencontre, au lieu de dire « Florence, je suis relationniste » ou peu importe, j'essaie de donner une caractéristique, tu vas voir où je m'en vais avec ça, et pour réaliser que c'est une des choses qui me passionne et qui m'habite le plus, c'est la connexion humaine. Et donc, quand on est dans ces rencontres-là en visioconférence, ça a facilité notre vie pendant la pandémie, puis c'est merveilleux quand on veut parler avec un ami qui est en Australie, mais nous, on est dans la même ville, on est à quoi, 15 km l'un de l'autre, peut-être même moins que ça.
Ouais.
Tu sais, la connexion humaine n'est pas pareille. Tu sais, tu m'ouvres pas la porte, on va pas prendre un moment pour remplir ma bouteille d'eau, on voit pas la gestuelle de l'autre, on s'intéresse pas, on fait pas vraiment de small talk, qui est relativement important. Tu sais, puis ça revient aussi à la raison pour laquelle chez nous au bureau, les filles, j'y tiens, viennent au bureau tous les jours de la semaine, ils ont le droit à comme une journée de télétravail en principe chacune, mais c'est tout. Puis j'y tiens mordicus.
Ah, j'aime ça. Pour les gens qui ne connaissent pas l'agence Brouillard, décris-moi cette agence-là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faisiez hier? Depuis combien de temps que cette agence-là existe?
Grosse question. Écoute, Brouillard existe depuis 1988 et c'est avant que je naisse. Donc, ce n'est pas moi qui ai parti l'agence. C'est une entreprise, c'était l'entreprise en fait de mon père qui est parti en 1988. À l'époque, mon père faisait comme toi, faisait de la radio, a été journaliste dans plein de stations.
Ouais.
Exactement, un gars de radio, un gars de télé. Il a été critique d'art, il a été commentateur de sport, il a fait plein de jobs. Entre deux jobs, parce que bon, la vie dans les médias n'est pas si simple, ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts qu'ils avaient cumulés au fil des années, il s'est fait demander par des amis d'organiser des événements puis d'inviter des médias. Et de là est né son métier de relationniste. Métier de relationniste que certains vont confondre avec les termes attaché de presse, mais c'est pratiquement la même chose. On va utiliser attaché de presse davantage dans le monde politique, par exemple, mais c'est la même chose. C'est que nous, on est la personne qui fait la courroie de transmission, si tu veux, entre un individu ou une organisation ou un artiste et les médias. Ceci étant dit, donc, mon père, 1988, moi, quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à travailler avec lui à la sortie de l'université.
C'était une décision difficile, ça, de travailler pour son père? Parce que bien souvent, l'effet de proximité fait en sorte que... Ben, ça dépend. Là. Moi, dans mon cas, si je dis quelque chose à mes gars, c'est jamais pris en considération. Mais si c'est le coach de hockey, exemple, qui dit quelque chose, ben là, le coach de hockey me dit telle affaire. Oui, mais c'est parce que ça fait 6 mois que je te répète la même affaire. Tu sais, en raison de la proximité, on a toujours tendance à dire « Non, je veux tracer ma propre voie. » Dans ta tête, ça a-tu été ça?
En fait, l'histoire, je te la raconte rapidement. J'ai étudié en communication, mais pas parce que je voulais vraiment étudier en communication. Moi, ce qui me passionne, c'est la littérature puis l'histoire de l'art. pour une raison quelconque, je me suis ramassée en communication, quelconque étant un peu la pression de mes parents. et vraiment, je voulais poursuivre mes études après mon bac à l'université que j'ai fait à l'Université Laval au deuxième cycle, à l'étranger. Et mon père est rentré à l'hôpital d'urgence quelques jours ou le jour de mon dernier examen de bac. Là, tu sais, ça ne s'invente pas. Et moi, ayant été formée en com, les bureaux étaient à la maison à ce moment-là, je suis comme rentrée pour aider l'équipe à ma juste valeur, c'est-à-dire pas grosse valeur, mais une petite valeur, parce que mon père était sous le carreau pendant 3 mois. Il y a eu une grosse opération cardiaque. Et puis, ben là, j'ai goûté à travailler à temps plein, à avoir un salaire, puis j'ai juste jamais recommencé à étudier. Et donc, j'ai fait tous les postes au sein de l'entreprise, de littéralement stagiaire cet été-là à éventuellement directrice générale. Puis là, j'ai acquis l'entreprise il y a un peu moins de 2 ans.
Fait que t'es reparti à la base.
100% à la base. Puis oui, ce fut une décision difficile parce que ce ne fut pas vraiment une décision pour vraiment comme il faut. C'est pour ça que je t'explique le contexte, répondre à la question. Ça m'a été un peu poussé dans la gorge, mais le fait de rester, ça a été ma décision finalement. Puis le fait de l'acheter aussi, ça a été ma décision. Puis ce que tu nommes, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai dû m'en rendre compte à la fin de ma vingtaine quand j'ai compris que parfois la relation entre mon père et moi pouvait être un peu toxique pour les gens autour. Toxique est peut-être un mot fort, mais c'est que quand effectivement ton parent, puis on est presque tous dans la même situation, là, ton parent dit quelque chose, tu l'interprètes de un pas du tout de la même façon que si c'était une tierce personne neutre. Ouais. Puis au-delà de ça, au-delà de pas l'interpréter de la même façon, on réagit pas de la même façon. Avec nos parents, on se croit beaucoup plus, on se croit un peu tout permis, on peut leur répondre d'une certaine façon qui est parfois pas élégante, qui est parfois irrespectueuse. Puis dans un cadre professionnel, moi, j'avais probablement pas les outils à l'époque, puis j'avais pas eu les guides, j'avais pas de code de conduite non plus sur « oui, c'est ton père, mais tu peux pas lui répondre comme à la maison ». C'était comme très implicite. Mm-hmm. Ça s'est relativement bien passé, là. On s'est jamais lancé de la vaisselle, là. Mais je sentais que ça créait un inconfort à certains égards, parfois pour les autres, fait que je me suis mis à être super sensible à ça, peut-être même un peu trop à un certain moment aussi. Puis éventuellement, ben, tu sais, c'est drôle, on parlait ensemble de la visioconférence. Ça, parmi toutes les autres choses que la pandémie a amené dans nos métiers de la communication, qui ont beaucoup changé, tu le sais comme moi, depuis 10 ans, mais depuis la pandémie encore plus, ben, mon père s'est un peu désintéressé, je te dirais, de notre job parce qu'il y avait beaucoup plus de technologie, il fallait tout réapprendre, il prenait de l'âge. Puis ben moi, par la force des choses, j'ai pris plus de place. Puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé que, ah ben tu sais quoi, je pense qu'on peut pas être deux à faire la même job, c'est-à-dire diriger la business. Puis j'ai enclenché le processus pour l'acheter. Donc, je l'ai acheté l'année dernière au complet.
Puis tu ne le regrettes pas du tout. Tu continues de développer l'entreprise. On te voit de plus en plus. Des fois, on te voit à TVA. Des fois, c'est Radio-Canada. On te voit un peu partout. C'est-tu un choix personnel de vouloir être plus présente dans les médias?
Non, c'est pas un choix personnel. Ça m'est un peu tombé dessus, tout simplement. Ouais. J'ai vraiment pas cherché à ce que ça arrive. Naturellement, je coach nos clients depuis bientôt 15 ans à faire ça, à prendre la parole dans les médias. Quand j'ai eu l'opportunité de le faire, moi, personne ne m'avait jamais coaché. Puis c'est comme un professeur à l'université, mais qui n'a jamais travaillé dans son domaine. fait que j'ai appris sur le tas. Puis je me plais bien à le faire. J'aime ça. J'essaie d'accepter le plus souvent possible quand j'ai l'occasion. Mais t'sais, petite anecdote, la semaine passée, j'ai fait une entrevue sur les Laboubou. Qui sont.
Oui.
C'est peut-être c'est quoi parce que t'as des enfants.
Je l'ai vu passer ce matin, là, c'est toi qui m'as appris c'était quoi les Laboubou.
Bon, ben moi, je l'ai pas mal appris au même moment que toi. Mais j'en avais entendu parler, mais ça m'intéressait pas vraiment. Puis finalement, ben quand tu te plonges dans la stratégie marketing derrière ça, c'est fascinant. Puis je t'allais l'expliquer à la télé. Bon, mais j'ai toutes sortes d'opportunités comme ça. Puis c'est très enrichissant, en fait. Si j'ai le temps, puis ça fait partie de mon rôle aussi parce que moi, je suis la personne qui fait le développement des affaires pour l'entreprise, puis je suis pas du genre à faire du développement des affaires de façon très traditionnelle, en ayant des prospects, puis en dînant avec eux autres, puis c'est pas du tout dans ma personnalité. Fait que je travaille beaucoup en visibilité puis en notoriété, donc ça fait partie de ma job, puis j'aime ça. Puis effectivement, je suis très visible, puis j'apprends à naviguer là-dedans, honnêtement, là, il y a pas de mode d'emploi, je veux dire. C'est comme du jour au lendemain, je pensais que j'achetais une business. Là, des fois, ça frise un peu la personnalité publique. Je suis comme, oh, OK, je suis bien là-dedans. Puis en même temps, c'est pas évident parce que dans mon rôle, moi, je suis censée, en fait, de par ma définition de tâche quand tu es relationniste ou attaché de presse, tu sublimes l'image des autres. Tu mets en avant ceux qui te payent pour. Et parfois, ben, mon image est quasiment plus forte que celle de mes clients. Puis au début, j'avais un inconfort par rapport à ça. Puis c'est quoi? J'ai décidé de ne pas en avoir. Au contraire, je sais de quoi je leur parle parce que je l'essaye.
Exact.
Je vais au battre pour eux autres, puis je le teste, puis j'essaye les différents médias. Puis aussi, les médias ne sont plus ce qu'ils étaient, tu le sais, comme moi quand même.
Oui, effectivement. Puis ce que je constate entre les nouveaux entrepreneurs puis les anciens entrepreneurs, c'est que maintenant, à chaque 6 mois, vous devez constamment vous réinventer parce qu'il y a de nouvelles façons de faire. Tandis qu'à l'époque, dans les années 80, bon, il y avait un milieu des affaires, il y avait des façons de faire les affaires, mais ça allait beaucoup moins vite. Tu pouvais garder les mêmes techniques pendant 5 et 10 ans, puis il n'y a personne qui allait s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, dans le métier où vous autres, vous êtes, vous n'avez pas le choix. Vous devez constamment suivre les tendances puis être à l'affût de tout ce qui se passe. L'information fuse de toutes parts. Des fois, il faut que tu fasses le tri là-dedans. Tandis que pour avoir vécu les années 80 étant enfant, je me souviens que c'était beaucoup plus lent comme rythme de travail. Là.
Absolument. Puis tu as tellement raison. Puis je te dis, là, ce que tu viens de nommer, je l'ai dans toutes mes discussions, que ce soit avec notre équipe au bureau, nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs, les médias. J'avais un lunch midi, on parlait de ça avec quelqu'un qui est dans une autre industrie que moi complètement. Puis tu le nommes, avec l'arrivée d'Internet, ça a un peu accéléré les choses. Mais là, en plus, avec l'intelligence artificielle, c'est fou. Puis tu vois, pour répondre à ta question, tu disais, tu regrettes ton choix un peu plus tôt. Puis tu sais, quand j'ai acheté l'entreprise, c'était vraiment pour moi pour m'acheter un billet vers la liberté. Parce que je savais que j'avais de la facilité puis j'avais du talent dans mon métier. Mais c'était vraiment pour avoir les coups des franges. Puis ce que je réalise, j'ai toujours dit que Brouillard serait le véhicule pour, pas atteindre mes rêves, mais que l'entreprise serait le véhicule pour avoir ma vie de rêve, pour moi et pour mon équipe. Peu importe ce que c'est. Puis en disant ça, ça voulait pas dire que Brouillard allait faire la même chose tout le temps. Et je l'ai comme lancé dans le cosmos, j'ai l'impression, parce que je constate, je suis aux premières loges de ce que ça représente être agile et c'est fou. Vraiment, là, je constate, je suis la première surprise. Nous, on est très agile et à l'écoute du marché, à l'écoute des tendances. On a intégré l'intelligence artificielle rapidement, on modifie nos outils. On est vraiment là, je te dirais, le PR qu'on faisait l'année passée, le PR qu'on faisait il y a 2 ans, qu'on faisait il y a 4 ans, qu'on faisait il y a 10 ans,
ouais,
à des années-lumière. Ouais. Honnêtement, celui qu'on va faire dans 6 mois, j'ai absolument aucune idée, il va avoir l'air de quoi. Évidemment, j'ai une petite idée, mais ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il y a encore plein de choses qui vont émerger, que j'avais aucune idée qui aurait le potentiel d'émerger en 2025, en 2026. Il faut être à l'écoute de ça. Puis, je pense dans beaucoup d'industries, mais particulièrement dans la nôtre, où on est tellement connecté avec l'actualité, les communications, les télécommunications, les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est vraiment en mouvance là, puis en grande, grande, grande évolution.
Qu'est-ce qui fait que les propriétaires d'entreprises, hommes comme femmes, du jour au lendemain, deviennent rapidement les porte-parole publics de leur entreprise? T'sais, on voit quelques exemples sur Internet, les gens qui ont les Salvatore, la famille Salvatore Abatiello, de mémoire, là, on les voit régulièrement. Toi, on te voit passer sur les réseaux sociaux. D'autres entreprises aussi, c'est clairement le propriétaire ou la propriétaire qui prend les devants puis qui te parle de son entreprise. Qu'est-ce qui pousse les entrepreneurs à faire ce genre de choses-là? Tu sais, dans le cas des Abatiello, bon, sont plusieurs à faire leur marketing et visiblement, dans la plupart des cas, ça va super bien. Mais là, il y a des fois des petites jambettes qui arrivent où quelqu'un dit quelque chose, c'est interprété d'une mauvaise façon et là, ça peut nuire à l'entreprise, mais ça peut nuire aussi aux gens qui ont payé pour avoir cette franchise-là. C'est très risqué là, de sortir comme ça puis devenir les porte-parole publics de leur propre entreprise. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à le faire?
Il y a 2 choses. Tu dis que c'est risqué, ce l'est particulièrement s'il n'y a pas de stratégie, à mon sens. Mais qu'est-ce qui pousse? C'est une stratégie comme une autre, d'abord. Mais c'est une stratégie qui est efficace. Si je te résume, parce que c'est un amalgame, je te dirais, c'est un amalgame de choses qui font que l'être humain est tellement habitué d'être sur son téléphone 24/7, d'autant plus, je te dirais, depuis la pandémie, puis depuis que au-delà de Facebook et Instagram, qui sont beaucoup plus statiques, puis X, qui est beaucoup plus revendicateur, conversationnel, politique, notamment avec TikTok, on s'est habitué au format de voir des gens qui parlent à leur caméra en continu et que ça va très vite, OK? Puis on s'est habitué à ça, puis on est devenu, en bon français, addict. D'autre part, on délaisse depuis 10-15 ans les grosses infrastructures, les grosses organisations, le pouvoir établi et le média traditionnel, je te dis ça à toi, mais tu le sais comme moi, est en crise. Donc, tout le monde a un peu la possibilité de devenir un média et de se crédibiliser à travers un discours sur lequel il a un contrôle absolu. Parce que en faisant ce qu'ils font, les Abatiello, puis tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un bon exemple, c'est un exemple qui est intéressant parce qu'il est très répandu au Québec. D'abord, ils sont plusieurs.
Oui.
C'est un produit de consommation courante, notamment où il y a les produits de chez Salvatore, mais ils ont plusieurs autres franchises. Puis Elisabeth, qui s'occupe, qui est une des sœurs, qui s'occupe, je crois, du marketing toute seule à l'interne, le dit régulièrement, tu sais, c'est pas en injectant des centaines, voire plus de milliers de dollars en publicité traditionnelle dans le média, dans X ou dans Y, que nous, on réussit à avoir autant de visibilité parce qu'ils ont une visibilité immense pour faire énormément d'entrevues, énormément de balados. Je me fais souvent poser des questions sur leur cas de figure. Donc, visiblement, ils sont visibles, ça fonctionne. Tu vas me dire qu'ils sont cinq, fait que c'est sûr que ça décuple les possibilités. Mais ça marche. T'sais, c'est pas pour rien qu'ils le font. Puis, ils ont compris la recette. Maintenant, c'est quoi cette recette-là? C'est de l'authenticité, c'est de la vulnérabilité. C'est de parler, justement, sans... Je dirais pas sans filtre, parce qu'il y en a un. Il y en a parfois eu moins un, puis ils en ont vécu les conséquences, puis il a probablement fallu qu'ils s'ajustent à l'interne, puis qu'ils établissent des balises. Mais ça fonctionne. Les gens sont écœurés de voir des images parfaites, léchées, de se faire vendre la pub. On est tellement bombardé de publicité tout le temps, tout le monde, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Puis on lève tous les yeux au ciel. La publicité est vraiment plus dans le même âge d'or qu'elle a déjà été. Donc, cette formule-là fonctionne. Maintenant, le bémol, c'est est-ce que tous les entrepreneurs devraient le faire? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'ils ont une stratégie? Comment? Et quels sont les objectifs? Est-ce que c'est de la notoriété simplement? Est-ce que c'est de gagner en crédibilité? Est-ce que c'est de développer une relation plus profonde avec son auditoire et donc potentiellement ta clientèle cible? Puis, tu sais, par exemple, prenons le cas des Avasiello parce que tu en parles. Tout le monde les connaît. Tout le monde connaît leur nom de famille, tout le monde connaît leurs produits. Est-ce que ça fait augmenter leur vente? Je ne peux pas te le dire, je ne travaille pas avec eux. Mais je ne pense pas que c'est ça l'objectif. Fondamentalement, à la fin de la journée, s'ils augmentent en notoriété, en crédibilité, en visibilité, généralement, à la hauteur de ce qu'ils font, parce qu'ils sont très, 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 très présents, oui, ça va découler en... Ils vont devenir je cherche l'expression que j'utilise d'habitude, mais ils vont devenir la référence rapidement quand on pense à se commander une pizza, parce que c'est ce que Salvatore fait. Fait que là, tu vas te tourner vers eux parce que inconsciemment, tu l'as vu à quelques fois sur tes réseaux sociaux pendant la semaine. Bon, maintenant, ça dépend de leur objectif et de leur stratégie, tu sais. Donc, c'est discutable et pas tout le monde, non, pour répondre aussi à ta question, devrait le faire. Mais tu le vois comme moi. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs laissés en ce moment. Moi, ce que je déplore, c'est que beaucoup de monde le font sans avoir eu un coaching pour se présenter en public.
C'est là où je voulais venir. Ça prend une communication qui est supervisée parce que quand tu fais de la publicité, comme on le faisait à l'époque, ton produit sort puis tu dis « OK, ben regarde, on a le message qu'on voulait passer. L'équipe marketing a travaillé là-dessus. Ça a été approuvé puis on a l'impression que ça va avoir un impact puis ça va nous amener des clients. » Tandis que quand tu laisses cette petite machine-là qu'on a dans nos mains qui s'appelle le cellulaire dans les mains de tout le monde en disant allez-y comme vous pensez, puis faites la promotion de notre entreprise. Là, dans ce cas-ci, eux, c'est les propriétaires de Salvatore, mais il y a aussi des franchisés.
Oui,
donc, s'il y a quelqu'un qui s'enfarge pendant le temps qu'il joue avec son cellulaire puis qui envoie ça sur les réseaux sociaux, ça peut créer une catastrophe pour les franchisés, entre autres, qui disent un peu, là, moi, je m'attendais à ce que le marketing soit bien fait. Fait que je me joins à toi quand tu dis faut que ce soit fait, mais il faut que ce soit supervisé, puis il faut que tu demandes de l'aide. Tu peux pas te lancer là-dedans en pensant qu'il t'arrivera jamais rien de problématique. Là. Ça peut être catastrophique parfois.
Effectivement. Le cas dont tu parles, c'est intéressant. Ça va devenir un cas d'école parce que, justement, dans leur cas, le fait qu'ils ont des franchises, plus. Puis je connais pas du tout la structure de leur système de franchise. Puis je sais pas si les franchisés ont le droit ou ont une mainmise d'une façon ou d'une autre ou payent pour le marketing. Bien franchement, là, je le sais pas. Fait que je veux pas me prononcer outre mesure. Ceci étant dit, c'est sûr que là, il y a eu un dérapage et en même temps, on ouvre la porte à ça. Parce que quand leur marketing repose sur la présence publique, de gens qui sont des ambassadeurs naturels de la marque, bien naturellement, en fait, voilà à l'inverse. Si une marque veut travailler avec un ambassadeur connu, un chanteur, une comédienne, peu importe, il va faire une veille auparavant pour voir est-ce que la personne a la majorité du temps, si c'est bien fait, évidemment, des squelettes dans le placard.
Exact.
Va s'assurer, tu sais, ce genre de... Comment je pourrais dire, ce genre de contrat-là où il y a un échange de visibilité mutuelle et un échange d'argent doit reposer non pas sur une transparence, mais quand même sur des contrats en bonne et due forme et sur une façon de faire les choses. Puis on apprend à construire l'avion en volant en ce moment-là. Je le dis pas de la bonne façon parce que je l'ai dit vite, mais tu as compris. Tu sais, c'est tout nouveau. Tout le monde l'essaye. Force est d'admettre, par contre, que ce que Salvatore et Léa Vassiello font, peu importe qui que ce soit en dit à ce jour, ils le font relativement bien.
Ouais.
Ils tirent super bien leur épingle du jeu. Et puis, tu sais quoi? je vais utiliser une expression que mon père utilisait beaucoup, seul le marcheur soulève la poussière. Il y a bien plus de chances qu'ils se plantent. Ils sont 5 avec un micro devant eux puis une caméra en tout temps. Il y a bien plus de chances qu'ils se plantent que toi puis moi qu'ils le font pas vraiment. Je sais pas à quel point tu le fais, moi je le fais très peu. Donc, ça leur arrive. Maintenant, faut apprendre aussi collectivement de ça, je pense. T'sais, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'être toujours devant un téléphone puis une caméra. Puis tu vois, ça, c'est le côté insidieux. Parce que on est toutes de façon personnelle sur les réseaux sociaux. Et donc, on a toute l'impression qu'on a une compréhension de comment ça fonctionne un peu, puis les algorithmes, puis etc. Mais une utilisation professionnelle des réseaux sociaux ne devrait vraiment pas se faire de la même façon qu'une utilisation personnelle.
Oui. Puis il faut se poser des questions avant d'envoyer la vidéo. C'est une bonne stratégie aussi. Puis la montrer à des gens peut-être de confiance aussi, c'est une bonne stratégie. Mais tu sais, prenons l'ancienne façon de faire de la publicité à la télé, exemple, où on mettait des porte-paroles. Bien là, on choisissait un artiste, que ce soit un chanteur ou encore un animateur de télévision. Prenons le cas de Guillaume Lemaitre-Vierge, où pendant des années, il a représenté une marque de voiture. Puis là, catastrophe après catastrophe, on se rend compte que ça fait plus. Là, l'entreprise dit « Attends un peu, moi j'avais un porte-parole, tout ce qu'il faisait avant, j'adorais ça, mais là, il a trébuché, je veux plus rien savoir. » Fait que là, ils l'ont complètement flushé. Puis pourtant, c'est un professionnel. Fait que les gens ont le droit de se tromper aussi. Là.
Absolument.
Mais quand tu représentes une marque, c'est ça que des fois, quand les employeurs nous abordent, quand on est à la radio, tu sais, dans mon contrat, moi, c'est inscrit que si je nuis à mon entreprise, c'est terminé pour moi. Ils peuvent mettre fin à mon emploi du jour au lendemain, là. Si je me fais prendre dans un scandale quelconque, si, je sais pas, moi, je vends un produit épouvantable sur le marketplace, puis, tu sais,
comme quoi?
Je l'ai fourré de 500$, puis là, la personne n'est pas contente, puis elle envoie ça sur les réseaux sociaux, puis c'est partagé plusieurs fois. L'entreprise pourrait dire, tu sais quoi, les histoires de vendre tes propres trucs sur marketplace, ça devrait être fini, parce que ça nous nuit, nous, éventuellement.
Oui, bien,
il faut que ça soit réglementé, puis il faut que ce soit surveillé quand
effectivement.
On fait
mais
ça.
Mais tu vois, marketplace, c'est intense. Ça, ce serait particulier, je te dirais. Ce serait vraiment une utilisation très poussée du contrat parce que ton empreinte digitale et numérique, jusqu'à un certain point, te revient. Puis marketplace, bien, oui, ça peut être vu. Puis ça, c'est toujours délicat parce qu'on voit toujours du monde qui vend des affaires qui n'ont pas d'allure sur marketplace. Là, ça nous pousse sur notre feed, puis on se dit, voyons. Bon, mais maintenant, d'avoir des propos, par exemple, quand tu travailles, des propos injurieux, des propos, par exemple, homophobes ou autres, ça, évidemment, généralement, c'est très clair dans les contrats. Puis c'est le cas aussi pour les influenceurs, pour les ambassadeurs, pour les porte-paroles, qui ils soient. Mais tout ça est en train de se développer parce qu'on réalise que plus qu'avant, les gens se mettent de l'avant et osent se mettre de l'avant. Je le vois, moi, parce que on a une explosion de demandes dans notre service de développement de marque personnelle. Puis les gens, il y a des gens qui veulent le faire parce qu'ils savent que la pérennité et la visibilité de leur entreprise ou de leur projet passent par là. D'autres, honnêtement, c'est parfois simplement pour se mettre de l'avant. Puis il y a une glorification parce qu'on regarde constamment des gens qui se mettent de l'avant sur leur plateforme sociale.
Ouais.
Parce que, soyons honnêtes, c'est ça que la majorité des gens consomment. Les gens n'écoutent plus les nouvelles, là, pour vrai. Tu sais, puis c'est pas pour rien que, je sais pas si vous en avez parlé en ondes ici, puis là, je la nomme parce que qu'une Alexandre Drolet qui était à Radio-Canada, qui a parti sa propre chaîne YouTube en actualité, puis elle est sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien qu'elle pogne autant. C'est parce que c'est elle qui est mise de l'avant, elle raconte les dessous de l'actualité, puis elle parle de l'actualité avec le même professionnalisme, le même cadre radio-canadien, mettons, qui encadrait son métier avant, mais de façon beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus accessible. C'est ce que les gens veulent. Mm-hmm. On est rendu là. T'sais.
Il y a peut-être un danger parmi les gens qui font appel à toi, Florence Brouillard. Il y a peut-être un danger de personnes qui se sentent appelées, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement le talent nécessaire.
On est d'accord.
Pour bien représenter leur entreprise. Te sens-tu à l'aise de leur dire, tu sais quoi, c'est une super de bonne idée que tu as, puis moi, je suis là pour t'accompagner là-dedans. Le problème étant que tu n'es pas la personne idéale pour représenter ton entreprise. Au contraire, tu vas nuire à ton entreprise.
Bien sûr.
Ça t'arrive de le dire?
Ben, en fait, il faut savoir que...
De faire mal?
Ben, je t'explique. Bien avant de développer le service de développement de marque personnelle, je ne sais pas le dire en anglais, personal branding, puisque je suis un peu carré de le dire, fait que je le dis en français. mais nous, chez Brouillard, et comme beaucoup d'agences en relations publiques, on faisait de la gestion de crise et on en fait encore. La gestion de crise est d'enjeu. Puis quand... Disons, là, si on fait un crash course de gestion de crise réactive, c'est-à-dire il survient une crise, qu'est-ce qu'on fait? On monte une cellule de crise. Ça veut dire on détermine qui sont les gens qui vont être autour de la table quand on va prendre les décisions importantes et qu'on va dire les choses importantes. Et c'est pas tout le monde. Généralement, selon la structure de l'entreprise, ben, ça va être si une personne concernée, souvent la personne concernée, du légal, donc un avocat ou des avocats, du PR qui font de la crise comme nous. Souvent, par exemple, la personne au RH de l'entreprise et évidemment, ben, les décideurs de l'entreprise. Fait que des fois, un représentant, par exemple, du CA, s'il y a un CA, puis la direction générale. Quand on est autour de la table, ben, faut qu'on détermine qui, quels seront les messages, comment on va les livrer, c'est quoi notre position, tout ça très rapidement, et déterminer qui est le porte-parole, le ou la porte-parole. Et ça, donc, quand on est en gestion de crise, on est habitué de le faire parce que c'est très important que quand on est dans la merde, et surtout quand on a fait quelque chose qu'on regrette et qu'on doit faire des excuses publiques, ce soit la bonne personne qui commente la situation. Donc, on est déjà habitué à faire cette espèce de tri naturel-là. Généralement, ça ne va pas être la personne la plus touchée émotivement. Ça va être la personne qui est la plus capable de gérer le stress également. Tu sais, bon, il y a un amalgame de facteurs, puis ça dépend évidemment de la crise. Donc, où je veux en venir, c'est qu'on est habitué de le faire. Ce n'est pas parce que tu es le CEO de la compagnie que tu es nécessairement toujours le bon porte-parole. Et tu n'es pas toujours le bon porte-parole selon la situation non plus. Quand les gens viennent nous voir en marque personnelle, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas nécessairement toujours dire qu'ils veulent se mettre de l'avant. Puis ça, c'est comme une nuance vraiment importante. Tu sais, le service, nous, qu'on a développé, c'est pour aider ceux qui en ont besoin à révéler leur unicité puis avoir plus de facilité à se manifester, à vivre et à s'incarner dans l'espace public. Mais dans l'espace public, là, parfois, c'est au sein de ton entreprise et dans ton réseau. Ce n'est pas nécessairement à la télé, dans des podcasts, écrire des livres, pas nécessairement. Donc, il y a une nuance, puis ça dépend de tes objectifs, et selon tes objectifs, découlera tes publics, et selon tes publics, là, peut-être que tu es la bonne personne, et peut-être pas. Donc, oui, ça nous arrive, oui, ça peut être difficile à dire, mais généralement, les gens qui viennent vers nous et ont de l'intérêt pour ce service-là, pas tous, là, mais je te dirais 95%, si c'est pas plus, des gens ont cette ouverture à « OK, je sais de toute façon que la majorité des choses que vous allez me dire va me faire mal. » Parce que c'est ça le but du processus.
Ouais.
Donc, je suis prêt à l'entendre et j'aime mieux l'entendre plus tôt que tard parce que ça va m'éviter du temps, de l'argent. Puis on va changer la stratégie de bord.
Puis est-ce que tu es capable, exemple, de dire à un client « Écoute, c'est une super de bonne idée, mais il va falloir vraiment travailler sur ta façon de dire les choses, sur les choses que tu peux dire versus ce que tu ne peux ne pas dire. » Est-ce que tu es capable de dire, de le voir dans cet individu-là, homme comme femme, c'est pas important, que cette personne-là peut se développer avec le temps?
Absolument, puis c'est ça le but. En fait, bien franchement, la majorité des gens qui arrivent vers nous, oui, on a une base de gens qui sont déjà très connus.
Ouais.
Ça arrive. Puis eux, souvent, c'est de raffiner leur narratif. Mais la grande majorité des gens, ils ont besoin d'aide et ils le savent. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Donc, il faut qu'on leur crée, on les analyse bien comme il faut. Puis là, après, on tombe dans les piliers narratifs. Après ça, on tombe dans les angles morts. On leur fait vraiment une structure pour qu'ils soient à l'aise de prendre la parole si c'est ce qu'ils souhaitent faire. Mais sinon, au-delà de prendre la parole, d'incarner, au final, c'est comme d'incarner ses valeurs profondes en corrélation et en cohérence avec tes objectifs, tes publics et tes moyens pour toi de les incarner dans la sphère publique. Il y a des gens que c'est à travers les réseaux sociaux, il y en a d'autres que c'est complètement différent. Puis oui, naturellement, la majorité du monde, on leur dit, c'est pas demain matin là, que tu vas commencer à faire tes premières publications, tes premières entrevues, là, ça te prend du coaching. Puis ils sont là pour ça, ils sont là pour apprendre. Fait que je te dirais qu'on n'a pas eu beaucoup d'égos qui passent pas à travers la porte et qui sont pas capables de prendre ces commentaires-là à date.
Ouais. Ou des fois, ils arrivent avec leurs gros égos, puis après, ils écoutent de leur propre contenu, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont besoin d'aller à l'école encore un peu.
Exactement. Puis oui, puis là, ils nous écoutent. Puis là, on le voit dans leur face qu'ils sont pas tellement d'accord, mais qu'ils savent, dans le fond, qu'on a raison. Fait qu'il y a un petit blanc. Puis finalement, ils reviennent deux semaines plus tard. Puis OK, là, c'est correct, là, ça, je l'ai intégré. Ça
puis
va.
Pour les gens qui veulent faire du personal branding, le marketing le contenu est hyper important. Ben, tu sais, des gens qui disent hey, « Moi, je veux dire telle affaire, je veux faire ça, je veux représenter mon entreprise. » Oui, mais dans trois semaines, tu vas dire quoi? Parce que c'est la répétition. Là, c'est, plus on voit ces gens-là, plus on va s'attacher. Mais si tu ne sais pas quoi dire, les sujets que tu vas apporter chaque jour...
Bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde.
Pour ton entreprise. Il y en a qui sont capables de s'auto-promouvoir sur les réseaux sociaux en disant rien, en faisant quelques blagues puis en s'amusant un peu. Mais quand tu représentes ton entreprise, ça te prend des choses à dire.
Oui, naturellement, mais je te dirais qu'il y a deux trucs là-dedans. D'abord, c'est pas parce que tu as une entreprise que toute ta marque personnelle doit reposer là-dessus et que tu dois être nécessairement le porte-parole de ton entreprise.
Ouais.
Je te donne un exemple. Moi, j'ai une entreprise, puis honnêtement, la moitié même pas de mon contenu parle de mon entreprise. Je parle pas de ça. Ben, honnêtement, parce que moi, quelqu'un qui me parle uniquement de sa business, ça m'intéresse pas. Puis, observe-le. Un bon gestionnaire de communauté, là, c'est-à-dire quelqu'un qui crée ta stratégie pour les réseaux sociaux, que tu sois une business, que tu sois un individu, que tu sois un artiste, un bon va te dire que si la moitié de ton contenu, c'est juste de te vendre, ben il faut que tu changes ta stratégie. Ça n'intéresse pas personne. Tu sais, on veut justement, pour ça, fais de la publicité. Ce qu'on veut, c'est créer des relations authentiques, de la connexion, de l'échange. Et pour ça, il faut parler d'autres choses que ce qu'on a à vendre, tout simplement. Fait que oui, ce que tu viens de nommer est important. Il faut que tu aies du contenu, mais c'est ce qu'on développe avec les gens. Puis c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. Il faut être capable d'avoir des opinions. Il faut être branché sur l'actualité. Il
ouais.
faut connaître des choses. Il faut avoir une certaine profondeur, c'est sûr.
Puis tu sais, je sais pas, toi, comment est ta vie personnelle, mais ma vie personnelle n'est pas si intéressante que ça. Je ne suis pas sûr qu'à tous les jours, je pourrais être sur les réseaux sociaux pour avoir de plus en plus de visibilité puis trouver quelque chose à dire. T'sais. Mes gars, des fois, ils me fournissent de l'information qui peuvent me faire rire. T'sais. En fin de semaine, j'étais au show de Slayer au Festival d'été de Québec, puis le lendemain, mes oreilles scellaient. Fait qu'on, mon gars m'a filmé pendant qu'il essayait de m'expliquer quelque chose, mais je faisais semblant pas. Que j'entendais rien. Puis là, ça a fait rire. Mes gars riaient. Fait qu'on a mis ça sur les réseaux sociaux, puis ça a bien fonctionné. Mais je veux dire, c'est pas à tous les jours là, que ma vie est drôle. Là, ça doit être assez compliqué aussi d'expliquer à un entrepreneur qui veut faire du branding personnel de « Hey, tu peux pas juste parler de ton entreprise, il faut que tu parles de ta vie, il faut que tu aies de l'opinion. » Puis en même temps, quand tu as de l'opinion, il y a des sujets qu'il faut que tu évites.
Puis t'ouvres la porte aussi aux commentaires négatifs.
T'sais, mettons, tu vas-tu parler du conflit entre Israël et le Hamas? Si tu fais ça, tu peux te mettre dans le trouble, là. Peu importe le camp que tu vas prendre.
Absolument. En même temps, moi, je pars du principe que si ça tient à cœur à la personne, ouais. puis c'est proche de sa vérité, il n'y en a pas de problème. C'est pas moi qui vais l'empêcher, mais ça vient avec ses détracteurs de toutes parts. Puis, il y a aussi une question très générationnelle, là, vraiment, vraiment. Il y a une génération pour qui tout publier ou publier beaucoup de contenu et continuellement être en train de prendre du contenu est un réflexe.
Ouais.
Mais effectivement, pour d'autres générations, ça l'est beaucoup moins. Puis l'objectif, c'est pas du tout de se dénaturer non plus.
J'ai-tu sonné vieux bonhomme tantôt?
T'as pas sonné vieux bonhomme? Mais c'est parce que tu dis, je sais pas à quel point ta vie personnelle est intéressante. Je me suis posé la question.
Elle l'est vraiment pas, ma vie personnelle intéressante. Elle l'est pour moi parce que je fais ce que je veux. Mais, tu sais, exemple, je peux passer une soirée à jaser avec mes gars, puis pendant qu'eux autres, ils jouent à des jeux vidéo, je me dis, mais ça peut-tu vraiment intéresser quelqu'un, tu sais?
Puis, bien, juste de se poser la question, je crois, c'est y répondre. Puis c'est pas ça l'objectif non plus. L'objectif, c'est pas de créer des mini-influenceurs à travers tous nos clients en personal branding. Pas du tout.
Ouais.
C'est que quand ils prennent la parole, quand ils le font, puis ils sont pas obligés de le faire constamment, c'est qu'il y a un objectif sous-jacent, plus profond, puis que ce soit plus ancré, puis qu'il soit certain. Parce que ce que moi, je vois beaucoup, c'est des gens qui veulent dire des choses, mais ils sont pas sûrs, puis « ça va-tu m'aider? Ça va-tu me nuire? Je peux-tu faire ça? Je suis qui, moi, pour prendre la parole? »
C'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement. T'sais.
Absolument, absolument, absolument. Puis ils voient la différence. Ils voient la différence parce que on enlève l'espèce de second-guessing que les gens ont tout le temps, qui excessivement sain, mais que pendant une période donnée, on travaille sur juste c'est quoi tes bases, comment on te rassure par rapport à ça. Puis si tu veux le faire, bien là, tu as tous les outils pour le faire, puis on peut même t'accompagner ensuite dans l'incarnation et dans le réel. Mais on retourne vraiment à l'essence même de l'individu avant qu'il se lance. Parce que être présent sur les réseaux sociaux puis être fauné, c'est comme ça fait un temps, mais éventuellement, quand les détracteurs et X, Y, Z, les gens te ça te rattrape, t'as des commentaires négatifs, ça fait mal.
Ouais.
Mais c'est sûr que si en plus c'était pas vraiment toi, puis tu faisais ça un peu pour plaire, puis pour générer de l'engouement, ça peut faire mal. Il y a des gens qui ça leur dérange pas, il y a des gens qui sont polarisants, ils aiment ça, ils vivent dans le débat. Tant mieux, c'est peut-être ça aussi ta personnalité sur les plateformes sociales, tu sais.
Ouais. Mais tu sais, je peux faire un parallèle avec les écoles de radio, que ce soit à Montréal, là, on a Promédia à Montréal, à Québec, il y a le Collège Radio-Télévision de Québec, au Saguenay, il y a ATM. Puis j'ai été au collège pendant quoi, 10 ans comme enseignant, puis quand je jasais avec les nouveaux étudiants, je leur demandais pourquoi ils voulaient faire ce métier-là, qu'est-ce qui les intéressait en télé, qu'est-ce qui les intéressait en radio, pourquoi ils se sentaient appelés vers ces médiums-là, puis je faisais tout le temps les questions qui faisaient en sorte qu'ils allaient me donner des réponses pour qu'ensuite je puisse les mettre dans le pétrin, parce que je leur disais, mais c'est quoi le métier d'un animateur de radio? C'est-tu quelqu'un qui travaille beaucoup? Il travaille combien d'heures par semaine? Puis bien souvent, dans leur tête, on travaille pas tant. Même affaire pour ce qui est de la télé, alors qu'on travaille comme les autres. Puis des fois, ben même quand tu es en congé, tu continues de travailler parce qu'il faut que tu trouves du contenu. Puis des fois, je leur donnais une leçon, tu sais. je leur disais, ben parfait, préparez-vous, lisez vos journaux, écoutez vos bulletins de nouvelles, puis lundi, on va faire notre première émission. Puis quand ils arrivaient le lundi, je savais qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas travaillé, puis je leur faisais faire une émission de 4 heures. Florence, c'est un fiasco. Parce que là, ils se rendaient compte que...
Faut que t'en aies du contenu.
C'est le fun de dire, hey, moi, je me sens appelé par les réseaux sociaux, je me sens appelé par le métier d'influenceur, je me sens appelé par la radio, je me sens appelé par la télé. Mais quand t'as un show de 4 heures à faire, ça t'en prend maudit de la jasette. C'est... Puis au fur et à mesure que les semaines arrivaient, ben, je me rendais compte qu'ils travaillaient toujours de plus en plus. Puis c'est la même chose pour les clients que t'as. C'est qu'au départ, ils ont une idée. Hey, je veux faire du branding personnel, puis je veux me faire accompagner par une professionnelle de brouillard. Puis là, toi, tu les approches, tu leur expliques ce qu'il y en est. Attends un peu, c'est plus si facile que ça.
Ah, c'est pas facile.
Il va falloir que je me pratique. Il va falloir que...
On leur fait faire des exercices, ben des tests, puis tu sais, il faut que tu sois capable. Moi, il y en a beaucoup de monde qui sont comme, je veux être plus actif sur LinkedIn. OK, check-moi bien. Je fais des devoirs, je les fais rebondir dans des textes sur l'actualité, puis je corrige leurs textes en temps réel. Pas si facile, là.
Non.
C'est comme s'ils écrivent 4 lettres ouvertes par semaine. Mais si t'es pas capable de faire ça, honnêtement, si c'est ce que tu veux, être actif sur les réseaux sociaux, à quoi bon? Ça veut pas dire que tu dois, par ton métier, être actif, de nécessairement prendre l'actualité comme point d'ancrage. Pas nécessairement. Des fois, c'est pas ça. Mais force est d'admettre que si tu veux être quelqu'un, à mon avis aussi, de qui a une voix, en fait, qui importe dans la société, il faut que tu te tiennes au courant de ce qui se passe. Tu sais, les laboubous.
Mm-hmm.
Puis... aujourd'hui, tu le sais, je veux dire, on a des métiers qui on gravite dans l'actualité continuellement. Il y en a des affaires qui se passent, puis les canaux sont décuplés. Tu sais, c'est plus juste de regarder RDI puis LCN en boucle, on est d'accord.
Ouais.
C'est qu'il faut que tu aies ton TikTok d'ouvert, puis il faut que tu aies Reddit d'ouvert, puis que tu aies X, puis
ouais.
C'est comme tout le temps, c'est plus intense pour nous. On a appris tout le monde à le faire. Je pense qu'on s'en sort tous bien, mais il y a beaucoup plus de canaux, l'auditoire est beaucoup plus fragmenté. Puis il faut sortir un peu de l'écosystème de juste ton entreprise si tu veux vraiment faire une différence. Puis avoir un. Parce que, tu sais, en développement de marque personnelle, en personal branding, les gens, ils viennent pas vers nous juste pour faire briller leur business. Ils viendraient pas vers nous pour ça. Parce que c'est pas ça qu'on fait. Je vais les envoyer vers d'autres. Ils veulent souvent, de façon sous-jacente, travailler en politique après. Devenir collaborateur dans un média, faire une différence dans la société au sens large. Mais pour ça, il faut que tu sois intégré, intéressé par ta société, puis il faut que tu nous le démontres, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important, puis ça crée un tri naturel aussi. Ça crée un tri naturel dans les profils qu'on reçoit, puis quand on leur explique ça, c'est comme, ah, OK, bien, effectivement, je suis peut-être pas à la bonne place, c'est peut-être pas le bon service pour moi.
Narcisse vous amène combien de clients par année, là? Des gens qui se disent, je pense que je serais capable de le faire parce que on m'a toujours dit que j'étais bon là-dedans. Puis quand je m'écoute, je me trouve bon. Puis quand je me regarde des réseaux sociaux, je me trouve beau aussi. Il vous envoie combien de clients, Narcisse?
C'est drôle parce que moi, je les ai appelés les psychopathes, ces gens-là. puis j'en ai parlé 2 fois la semaine passée parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont posé la question. En fait, je vais te l'amener différemment. Ils ne nous en envoient pas tant que ça.
Non,
parce qu'eux pensent qu'ils n'en ont pas besoin, d'une part.
Ouais.
Et d'autre part, quand ces gens-là se ramassent vers nous, ce que je remarque, c'est que tout le monde a un malaise, en fait. Au début, c'est comme, mais je ne veux pas trop parler de moi, je ne veux pas mettre de l'avant, puis qui n'est pas nécessairement fondé, mais qui est comme un malaise qui est de bon goût à avoir, particulièrement au Québec. Non, je suis inconfortable, mon opinion. Puis, tu sais, je veux pas avoir l'air de péter plus haut que le trou. Les gens qui ne me disent pas ça, je te dirais qu'automatiquement, je les mets dans la catégorie appelée narcissique ou psychopathe. Puis là, je vais creuser un peu. Puis parfois, c'est des gens super sains. C'est juste qu'ils ont déjà eu un coaching en PR, en formation de porte-parole, parce que disons qu'il existe ça aussi quand t'es... Tu sais, le personal branding puis être porte-parole pour son entreprise, c'est pas nécessairement la même chose.
Exact.
C'est vraiment 2 choses différentes. Puis ils l'ont déjà fait puis ils ont aimé ça. Donc ça se peut, mais il y a quand même un petit pourcentage de ces gens-là qui tombent dans la catégorie de ben moi j'ai quelque chose à dire puis je mérite d'être vu puis je veux toute la lumière, comment qu'on fait? Mais ils sont rares, ils sont bien, bien rares.
Ah ben c'est rassurant. Hey, on va faire une courte pause. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on passe la soirée en compagnie de Florence Brouillard de l'agence Brouillard. Votre site internet, madame?
brouillardrp.com.
Pour relations publiques.
Pour relations publiques.
Donc, brouillardrp.com. On vient. Marceau, le
soir. T'as ça, un ordinateur. Savais-tu que Boulevard 102.1 a une web radio?
Boulevard 102.1.
Écoute-nous en ligne. C'est simple et gratuit. PLVD.fm.
Votre demande de pardon est importante pour vous? Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
Avec Volkswagen Saint-Nicolas, économisez sur l'essence pendant vos vacances. Passez à l'électrique avec le Volkswagen ID4 2024. 0% jusqu'à 72 mois, 4 000 de rabais gouvernementaux, en plus de 11 000 de rabais additionnels. Passez-nous voir chez Volkswagen Saint-Nicolas.
B-Fly aux Galeries de la Capitale, c'est le rendez-vous de l'été. Vivez une expérience magique parmi des centaines de papillons en liberté. Profitez-en pour vous amuser dans notre mini-golf Luo 3D. Plaisir garanti pour toute la famille. Réservé à bfly.ca.
Pour un outfit de festival sacoche, pour un nouveau skate ou pour un t-shirt de band, viens nous voir chez ExoShop. On est la seule boutique spécialisée en articles promotionnels de band à Québec. ExoShop, skate, musique et vêtements depuis 35 ans.
Rien de prévu ce week-end? À seulement une heure des ponts, les aides-chemins vous attendent pour une escapade parfaite en famille. Plage, glissade d'eau, vélo de montagne, randonnée, arrêt gourmand, festival et événements. Vraiment, tout y est pour bouger et s'émerveiller. Les enfants vous en parleront longtemps. Les Etchemins, proches, gourmands et surprenants. Planifiez votre aventure sur tourismeetchemins.qc.ca. Tourisme Etchemins, c'est la nature à portée de route.
Vous cherchez un véhicule électrique maintenant? Marlin Chevrolet Buick GMC offre ses Blazer EV ou Equinox EV 2025 à 0% jusqu'à 72 mois. 4 000 de rabais gouvernemental en plus d'un rabais concession exclusif chez Marlin Chevrolet Buick GMC.
Besoin d'une nouvelle paire de lunettes? Bonne nouvelle, vous allez en avoir deux chez Gresh et Scaff. À l'achat d'une paire complète avec verre et monture, même de grandes marques, obtenez une deuxième paire en cadeau. Jusqu'au 2 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails et rendez-vous sur gresh-scaff.com.
Ce week-end, c'est la 30e édition des Fêtes de la famille de Saint-Émile au parc Réa-Cloutier. Sur place, jeux gonflables, spectacle canin, Arthur l'aventurier, atelier d'initiation à la danse, des spectacles gratuits sur la scène Desjardins. Voyez ce vendredi Francis de Grandpré, samedi soir, lendemain de veille, la bottine souriante et dimanche, Martin Levac et un incroyable spectacle de drone. Les Fêtes de la famille de Saint-Émile, c'est pour tout le monde ce week-end au parc Réa-Cloutier et l'entrée est gratuite. On vous attend.
Hey, la fraîche pluie d'été que vous entendez a été faite avec du bœuf haché mi-maigre. Toujours frais, toujours à bon prix. Pour les vacances d'été, c'est super, super safe.
7 allers-retours à la piscine pour profiter de l'été.
12 week-ends à faire la tournée des meilleurs restos.
40 destinations encore plus belles en vrai qu'en photo.
Mesurez la fiabilité de votre BZ4X en nombre de souvenirs, pas seulement de kilomètres. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 11 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatif client Toyota. Visitez htmtoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Boulevard.
Boulevard 102. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais... sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à télé puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix?
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On passe la soirée en compagnie de Florence Brouillard, de l'agence Brouillard, brouillardrp.com. Pour les gens qui veulent plus de détails, on parlait de personal branding. Donc, développement de marque personnelle, c'est comme ça que tu l'as dit en français tantôt. Est-ce que tu as des exemples concrets de gens que tu regardes sur les réseaux sociaux qui développent leur branding personnel d'une façon incroyable? Tu te dis, OK, ça peut être des modèles pour les clients que je convoite, des dirigeants d'entreprise, hommes comme femmes, qui voudraient se lancer eux-mêmes dans leur branding personnel.
Tout à fait. Je vais essayer de t'en nommer quelques-uns dans des industries différentes. Dans ceux dont, de qui j'ai déjà parlé, Olivier Primo.
Ouais.
Bon exemple.
Mais ça vient que c'est scandale.
Oui, bien sûr. En fait, ça, c'est intéressant parce que tantôt, on parlait quels sont les KPI en marketing. Ce seraient les résultats tangibles que tu peux associer à une campagne, par exemple. En personal branding, il y a des résultats positifs tangibles. Donc, augmentation de la visibilité, augmentation du nombre d'abonnés sur les plateformes sociales, augmentation des opportunités d'affaires, être approché pour participer à des balados, à des entrevues médiatiques, à des panels, se faire offrir des émissions. Bon, tout ça sont des KPI positifs. KPI négatifs, je vais probablement faire un post LinkedIn bientôt là-dessus. Mais naturellement, tu sais, t'ouvres le dialogue parce que tu le fais beaucoup sur les plateformes sociales. Je te le disais tantôt, on n'est pas obligé de passer par là dans le branding personnel, mais par la force des choses, c'est essentiel. En ouvrant le dialogue, donc en étant plus seulement quelqu'un qui publie du contenu comme un peu de façon publicitaire, mais en élargissant le tout, en émettant des opinions, parfois en suscitant le débat, bien, on ouvre la porte à des commentaires négatifs. Donc oui, ça peut générer des scandales.
Dans le cas d'Olivier Primeau, là, s'il parle de toi, tu as un restaurant, il parle de toi, tu peux être sûr que ça va être fort achalandé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Fait que ça, c'est ce qui est positif. Mais lui, il y a plein d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont moins bien. Mais là, comme il y a la lumière sur lui, Olivier Primeau, ça fait en sorte que si un journaliste cherche une histoire, puis là, il voit passer une entreprise d'Olivier Primeau qui va moins bien.
C'est sûr, ça attire la lumière.
Si je mets Olivier Primeau dans mon papier, mon article va être lu. On n'invente rien, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne un peu les médias. C'est que si tu as de la lumière sur toi, nécessairement, les gens vont chercher un peu sur toi. Fait que, oui, c'est vrai, c'est un très bon cas, Olivier Primeau, de branding personnel. Ça fonctionne super bien pour lui. Puis les retombées positives quand il va visiter un commerce puis qu'il note ta poutine, ben sont juste incroyables.
Absolument. Puis sur les prochains que je viens de nommer, sont tous 360. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris qu'il pouvait profiter d'une présence publique multifacette, comme un mix marketing en bon français, mais dont le core est un individu et non pas une entreprise. Je pense à Christiane Germain.
Oui.
Tu sais, bon, évidemment, c'est une hôtelière. Ça, c'est son métier. Mais Christiane, participation à des émissions de télé, référence. Tu sais, je veux dire, tout le monde sait c'est qui maintenant au Québec. C'est extraordinaire. Puis elle a su développer une présence, tu sais, en étant impliquée de plein de façons. Et en gardant toujours la même cohérence dans sa posture publique. Marie-Lou, que tout le monde connaît de 3 fois par jour.
Ouais.
Puis c'est intéressant parce que Marie-Lou, on l'associe beaucoup avec 3 fois par jour, mais elle a quand même commencé dans l'œil du public en tant que chanteuse. Après ça, 3 fois par jour, c'était un blog au début. Plateforme sociale, entreprise, livre de cuisine, magazine. Écoute, j'en oublie, là, je ne connais pas l'éventail de ses projets. Je sais qu'elle a fait aussi une émission de télé un moment donné sur des sujets beaucoup plus tabous, l'argent, le sexe, se décoller un peu de son image de jeune femme parfaite. Puis, elle a une superbe notoriété qu'elle alimente sur ses plateformes sociales et à travers plein de projets. Et je pense même des produits dérivés de 3 fois par jour. Je pense qu'il existe aujourd'hui des produits de cuisine. Même chose, inutile de dire, Ricardo en est un très bon exemple.
Ouais.
Puis Ricardo, c'est le fun parce que il était collé avec Ricardo Cuisine pendant, 20 ans.
Mm-hmm.
Puis là, maintenant, on le voit beaucoup plus dans les médias à titre d'animateur journaliste, métier dans lequel il a étudié. Et ça reste cohérent parce que ce qui est beau dans la marque personnelle, c'est de travailler sur soi, mais de ne pas rester figé dans le temps parce que l'humain évolue. Puis c'est vraiment la différence principale entre du branding d'une entreprise, d'une marque, et le branding d'un individu. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une évolution. Puis au contraire, si notre marque personnelle n'évolue pas, il y a même une dichotomie, il y a un inconfort. C'est impossible que quelqu'un qui a commencé à être dans l'œil du public, pensons à Véronique Cloutier, à 16 ans, peu importe, 18 ans, quand tu étais très jeune, versus aujourd'hui, c'est exactement la même personne. Non, tu sais, pas du tout. La personne, dans le cas de Véronique Cloutier, devient mère, devient au centre d'une maison médiatique, parce que c'est véritablement le cas avec le magazine et tout ce qui est autour du magazine. Elle a parlé de la ménopause quand elle était rendue là. Donc, son narratif a évolué. Elle n'aurait jamais parlé de ça à 20 ans. Elle n'aurait probablement jamais eu le courage de le faire. Donc, c'est des beaux exemples. Au Québec, on en a vraiment plein. Puis là, j'en nomme qui sont très, très, très connus. À plus petite échelle, il y en a plein dans des entreprises d'ici qui sont des gens, je pense à une de mes amies, Andréane Marquis, qui a un super beau branding personnel.
Qui a commencé par Occupation Double.
Qui a commencé par Occupation Double, puis qui a été une des premières à sortir de la télé-réalité, à devenir une influenceuse et à capitaliser là-dessus pour lancer des entreprises.
Femme d'affaires, oui.
Donc, elle s'est dit, c'est pas vrai, moi, que j'ai autant de centaines de milliers d'abonnés puis que ça va dormir là sur Instagram.
C'est Woman's, hein, c'est ça?
Woman's, c'est sans façon, exactement. Voilà. Donc, Andréane, un super bel exemple. Puis, tu sais, pour elle, elle l'a compris, ses plateformes sociales sont essentielles. Mais Andréane, elle pourrait partir plein d'autres projets. Elle fait des conférences, elle peut faire du mentorat, elle a une visibilité extraordinaire, elle a plein d'opportunités, mais elle se met beaucoup de l'avant, puis elle le fait de la bonne façon. Elle a compris qu'il fallait qu'elle capitalise là-dessus, puis ça marche, tu sais. Donc, vraiment, il y en a beaucoup au Québec.
Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens comme toi qui sont des observateurs. Puis en plus, tu es dans Poutine. Là, je veux dire, tu fais la même affaire à peu près qu'eux. Tu es dans les médias. Tu te promènes un peu partout. C'est le fun. Fait que l'importance pour les gens qui veulent se diversifier, ben, c'est d'être assisté par de bonnes personnes qui peuvent continuer à les faire, grandir dans leur aventure. Hey, je veux terminer avec l'agence Brouillard. Vous faites des communications d'urgence. C'est-à-dire, quand ça va pas bien, ben, on peut faire appel à vous autres pour essayer de contrôler un peu le message, parce que là, il y a une catastrophe qui vient d'arriver. Puis, tu sais, je ne veux pas trop donner d'exemple, mais vous êtes capable d'embarquer dans, dans une entreprise puis dire, OK, il s'est passé telle affaire, voici de quelle façon on va vendre la chose. Est-ce que c'est compliqué, ça, le marketing d'urgence ou la communication d'urgence?
La gestion de crise.
Gestion de crise.
Compliqué ou un peu parce qu'il y a plus d'émotivité. Il faut réagir plus vite. Puis il ne faut pas justement laisser l'émotivité naturelle que les clients ont nous monter à la tête.
Parce qu'il y a des jobs qui sont en jeu, il y a de l'argent qui est en jeu.
Bien sûr, il y a beaucoup de parties prenantes. Oui, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas toutes les agences qui le font. La majorité, en fait, des agences qui vont faire des relations publiques de gestion de crise, c'est les gens qui vont travailler en relations gouvernementales aussi, fait que les très gros cabinets, ou ceux qui travaillent en acceptabilité sociale, parce que ça fait partie de la game. L'acceptabilité sociale, là, en deux mots, c'est des agences qui sont spécialisées dans le fait de faire approuver, c'est souvent avec les villes, main dans la main avec les municipalités, par exemple, faire approuver des projets, par exemple, immobiliers très contestés dans une zone, dans une région. Donc, naturellement, tu es habitué à être confronté à des gens qui ne vont pas être réceptifs à ta nouvelle, mais tu es préparé. C'est pas compliqué. Moi, j'adore ça. C'est ce que je préfère. Puis c'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que la semaine dernière, un ami me disait, je trouve ça spécial, Florence, votre positionnement, parce qu'autant, chez Brouillard, en ce moment, on est juste une gang de filles. Puis, tu sais, vous avez une image très bubbly, ça a l'air le fun de travailler chez vous, vous faites des projets en retail, en hôtellerie, en immobilier, en technologie, vous faites du personal branding. Ça peut sembler très positif et le fun, mais d'un autre côté, les gens ne voient pas, mais vous faites aussi de la gestion de crise, du branding personnel qu'on met très peu de l'avant. On ne met pas nos clients tant que ça de l'avant, on met le service de l'avant, mais on préfère, bon, pour bien des raisons, souvent ne pas dire qu'ils sont nos clients. Puis, tu ne trouves pas que c'est incohérent? Puis, au contraire, nous, on fait partie des agences qui font les deux et c'est un choix de faire les deux. Et c'est ce qui fait que notre job est extraordinaire. Et à mon avis, c'est ce qui fait qu'on est bon dans les deux. Parce qu'on peut goûter à différentes stratégies, puis on peut avoir une vision beaucoup plus 360 de l'écosystème, pas juste du marketing et de la communication, mais de ce qui se fait stratégiquement. Parce qu'au final, tu sais, ça finit par se ressembler. C'est juste une stratégie négative qu'on retourne en positif. Puis c'est vraiment, tu sais, je te souhaite jamais de vivre une crise, mais d'être aux premières loges...
Ah, j'en ai déjà vécu. Mon ancienne carrière radio pourrait te dire que on a vécu des tempêtes, on a toujours passé au travers. La stratégie de mes patrons à l'époque, c'est encore cette stratégie-là qu'ils utilisent, c'est le temps. Avec le temps, les choses se réparent, se placent. Il y a certaines personnes qui oublient, ce qui fait en sorte que si tu as été méchant envers un politicien, bien, dans un an, ça se peut qu'il l'ait oublié puis il revient à la station de radio.
C'est bon, ça. Ben, écoute, c'est une stratégie média, tu vois. Tu vois, c'est pas vraiment mon genre de stratégie.
Non.
Le temps, c'est bon quand où il y a, par exemple, des cas d'agression sexuelle. Dans MeToo, le temps a été beaucoup aussi utilisé en disant tu sors de l'espace public, tu fais un message relativement politiquement correct, puis tu sors de l'espace public pendant un bout de temps, puis reviens pas trop vite. Puis d'ailleurs, ça va arriver encore à pas mal de monde, malheureusement, de ce que j'entends en ce moment. Mais c'est le fun. Mon Dieu que c'est le fun. C'est parce que tu te sens tellement utile. Puis ce que moi, je réalise, c'est que j'en ai fait une la semaine dernière. Une un peu proactive. C'est quelqu'un qui a des squelettes dans le placard, puis qui revient dans l'espace public. Puis les gens qui le managent ont fait, « Hey, tu sais quoi? On va aller passer du temps avec Brouillard, puis on va essayer de se faire une stratégie parce que ça risque de ressortir. Tout ressort. Comment on va gérer quand ça va ressortir? » Puis on a travaillé là-dessus une journée de temps. Puis juste pour la personne qui est concerné, ça lui permet de mettre des mots sur un inconfort, sur des sentiments. Il y a plein de gens qui font des erreurs dans la vie. Mais tu sais, quand t'as pas de casier judiciaire, quand t'as pas tué personne, t'as pas violé personne, un moment donné, il faut aussi se mettre les yeux en avant des trous. Là. Oui, on est dans un univers qui, disons, je dirais pas un univers, on est dans une époque qui pardonne peu. On est allé vraiment à l'extrême également. Je pense que le ballon va revenir un petit peu tranquillement. Mm-hmm. Mais c'est correct d'être trop prudent, c'est correct. Puis en fait, c'est essentiel d'être trop prudent. Mais un moment donné, il faut que ces gens-là, puis ça, c'est juste des gens qui font notre métier ou des avocats qui peuvent le dire, mais il faut que ces gens-là se pardonnent aussi. Tu sais, tu peux avoir fait des faux pas, mais c'est pas parce que tu es une personnalité publique que tu dois être parfaite, mais tu dois être convaincu, par exemple, que ça va sortir. Ouais.
Mais c'est géré autrement, parce que si Serge, il fait son mononcle, puis il dit des choses qui sont inappropriées, versus Serge, qui est chef d'antenne pour un poste de télé, exemple, ben ça va être un peu plus dur pour Serge, parce que là, tout le monde est au courant de ce que Serge dit, le chef d'antenne, versus l'autre qui a une job dans la construction, lui, il y a peut-être des gens qui vont y en vouloir, mais les gens vont passer à d'autres choses, tandis que lui, quand il veut revenir comme chef d'antenne, parce qu'il y a un présumon qui a été suspendu, ben il va dire, ouais, mais tu te souviens-tu que ce que tu avais dit à la secrétaire là, ou l'adjointe administrative, tu avais parlé de ses fesses, puis c'était totalement inapproprié. Ben, à un moment donné, il faut que lui trouve des réponses. Là.
Mais tu as tout à fait raison, puis c'est intéressant ce que tu nommes. Ça me fait réaliser que le service dont je te parle, que j'ai développé en développement de marque personnelle, pour moi, est beaucoup plus profond que ça, puis devrait être utilisé par toutes les personnes qui prennent du temps d'antenne de l'espace public. Parce que on le sait, puis tu l'entends, je veux dire, tu as un micro, là, c'est ça ton métier. On le sait, vous avez, malheureusement ou heureusement pour vous, une responsabilité sociale quelconque parce que vous avez un auditoire. Tout le monde peut devenir un média aujourd'hui, on est d'accord, mais vous, vous êtes payé pour, contrairement à certaines personnes.
Et on est surveillé.
Et vous êtes surveillé, bien sûr, vous avez des boss, puis en plus, il y a une organisation. Mais au-delà de tout ça, à mon avis, à moi, le jour où quelqu'un se met à être dans les médias ou à être plus public, il devrait réfléchir correctement c'est quoi mes limites, pas juste de ce que je dis, mais comportementales avec lesquelles je suis capable de vivre. Puis j'ai l'impression que c'est un peu pris pour acquis.
Ouais.
Puis surtout, aujourd'hui, ça fait plus de sens. Tout le monde, tout se sait.
Tu sais, pour le vivre, là, c'est ça. C'est qu'on a tendance à l'oublier. Le métier public qu'on fait, parce que nous autres, dans nos vies, on n'est pas public. On fait nos affaires. Puis des fois, ben, quand mes enfants, je suis au McDo, puis là, mes enfants sont turbulents, ben, des fois, je suis obligé de rasseoir mon gars en disant, là, c'est assez, t'arrêtes de déranger les gens, mais... Il y a des gens qui nous écoutent.
Ouais.
Ah, OK, Marceau, il est agressif. Là. Il parle à son gars, il demande de s'asseoir et d'arrêter de déranger les gens. On est constamment scruté.
T'as raison.
Nous,
ça, c'est compliqué.
Échelle, parce qu'on est une radio, on est une radio locale. Mais quand je prends des gens qui sont sur la sphère politique, exemple, lui, dans sa vie personnelle, ça se peut qu'il engueule ses enfants en public, mais il faut qu'il sache que lui, il est sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant à la vue des gens qu'à l'écrit ou quand il parle au téléphone. T'sais.
Puis je te dirais que par rapport à ça, pour en avoir épaulé beaucoup dans le dernier 24 mois, des situations comme ça qui arrivent à des influenceurs, à des personnalités publiques, à des politiciens, ça fait un raz-de-marée, mais de très courte durée. Fait que c'est un raz-de-marée vraiment, 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 vraiment intense, mais il y a toujours un prochain scandale. Il y en a tout le temps. Fait que, fort heureusement, il y a tellement de caméras braquées sur tellement de monde en même temps que si c'est juste un truc du genre, ça va faire... Ça va retomber vite, vite, vite.
Ouais.
Au moins. Au moins.
Il y a ça, il y a ça. Florence, ça a été un plaisir de passer la soirée avec toi. Je rappelle aux auditeurs qu'on a passé la soirée en compagnie de Florence Brouillard, de l'agence Brouillard, brouillardrp.com pour vous rejoindre. Vous allez voir tous les services que vous offrez. T'es fantastique, t'es une femme d'affaires, le fun. T'es le fun à recevoir en entrevue, puis j'espère te voir longtemps dans les médias.
J'espère aussi. Merci pour l'invitation.
Salut Florence, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Votre demande de pardon est importante pour vous? Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
C'est l'été chez Desjardins Volkswagen. Profitez de plusieurs promotions estivales, dont le Taos 2025, qui vous est offert à des taux à partir de seulement 0,99%. Livraison rapide et services impeccables garantis. Tout ça et encore plus chez Desjardins Volkswagen.
En juillet, au Festival d'été de Saint-Georges, Papa Roach, Sarah Dufour, Talk, Charlotte Cardin et bien d'autres.
Vivez un événement unique à une heure de Québec avec la chaleur des Beaucerons. Passeport en vente sur lefestival.ca. On vous attend du 16 au 19 juillet.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Comme spécialiste en exploitation minière, en construction et en foresterie, nous avons le sens de la performance, comme la performance que nous réalisons ensemble. Équipement SMS est bien plus qu'un distributeur de marques réputées comme Komatsu. Nous mettons notre expertise et nos technologies de pointe à votre service, jour après jour. Car avec le bon partenariat, tout est possible. Équipement SMS, partenaire de vos possibilités. Découvrez les possibilités à équipementsms.com.
Les subventions sont de retour. C'est le temps de passer à l'action chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Obtenez un rabais totalisant 10 000 $ au comptant sur le Outlander PHEV 2025. Mais faites vite, l'offre est disponible seulement sur les unités en inventaire. Chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long. On revient.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant, témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes, chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Judith, cliente d'Antirouille Métropolitain depuis 2022.
Mon grand-père y allait, mon père y va, même mon garagiste. À un moment donné, une fille s'est dit « ça doit bien valoir la peine, Antirouille Métropolitain ». Je suis allée sur antirouille.com, j'ai lu, j'ai comparé et je me suis décidée. En quelques clics, j'avais mon rendez-vous. La gérante a répondu à toutes mes questions pendant que mon auto se faisait traiter. On a dû arrêter notre conversation quand on m'a remis les clés. En se quittant, on s'est dit « à l'année prochaine ».
Pour un temps limité, profitez du rabais estival de 20 $ d'Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille.
Découvrez un musée à ciel ouvert unique au Canada, à Saint-Jean.